Justice, enfance.
Bonjour et bienvenue sur RLP dans ce nouveau direct de Famille, Justice, Enfance sur 102.3 dans le Périgord et dans le monde entier sur Internet. Famille, Justice, Enfance avec Stéphane, l'émission sociologique d'études de la famille occidentale contemporaine. Aujourd'hui, nous allons étudier, de la sociologie, de la philosophie aujourd'hui. Nous allons parler d'antifamilialisme. Nous allons pour ceci interroger Xavier Collet. Xavier Collet, président du CEDIF, comité élargi de défense de l'individu et des familles depuis un certain nombre d'années, j'ai vu. Accessoirement, il est aussi secrétaire général de l'association des libertariens. On va avoir plein de points communs en tant qu'anglo-saxon, expatrié. Et là, je sais que vous ne connaissez pas ce qu'est le libertarianisme en France. Peut-être qu'on pourra vous l'expliquer. Xavier Collet est enseignant en économie, en gestion et en droit, en lycée et en supérieur. Auprès des enseignants, oui, on est connu, c'est ça, voilà. Alors surtout, il a un master de droit privé, un DESS commerce extérieur et une maîtrise de sciences économiques. Nous sommes devant quelqu'un qui a produit quand même un certain nombre de contenus et qui a réfléchi sur le sujet. Xavier, bonsoir.
Bonsoir Stéphane et merci de m'avoir invité pour parler d'un sujet qui n'est pas forcément très connu, mais je pense qu'on ne peut pas ne pas parler d'antifamilialisme quand on parle de l'ASE.
Bon, donc déjà là, on pose le cadre. Xavier Collet, déjà, est-ce que cette présentation vous convient? Est-ce que si vous aviez dû vous présenter vous-même, est-ce que vous l'auriez fait de la même manière?
Disons que je n'aurais pas forcément insisté sur ma carrière et sur le fait aussi que j'ai d'autres activités, bien évidemment. Hein. Je ne suis pas seulement bénévole du CEDIF. Mais effectivement, j'ai plusieurs cordes à mon arc et on a besoin de juristes justement pour défendre les familles.
Oui, alors qu'est-ce qui a fait que
ma formation peut être utile?
Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressé à ce domaine? Déjà, pourquoi le droit? Pourquoi la famille? Et pourquoi ensuite ces travaux sur, vous définissez qu'il y a une espèce d'état d'esprit ambiant qui est opposé à la famille traditionnelle, ou tout du moins qui est différent de celui qui a pu être par le passé. Pourquoi cette direction et pourquoi ces positions?
Disons que a priori, j'étais en contact avec des personnes que je connaissais et qui avaient eu des problèmes liés justement à l'ASE, tout simplement. Donc, qui m'avait demandé des conseils. Étant donné que j'ai une petite coloration libertarienne, comme vous l'avez précisé, je n'ai pas forcément été très rassurant parce que j'ai tendance à considérer quand on a des problèmes avec l'État, c'est des problèmes dont on se sort difficilement. Et effectivement, le fait de se retrouver aux prises avec l'ASE, c'est un peu comme quand on rentre dans des sables mouvants. Plus on bouge, plus on s'enfonce. Donc, j'ai pas forcément été très rassurant, mais j'ai voulu participer à aider des amis, puis d'autres. Et donc, le comité CEDIF s'est organisé au début, comme une sorte de, comment dire, une sorte de comité de défense de familles désenfantées.
Voilà. Alors, le CEDIF est effectivement le comité CEDIF élargi de défense de l'individu et des familles.
Tout à fait. Donc, le côté pas rassurant, c'est... Alors, je vais vous dire franchement, quand on entend des gens qui ont eu des problèmes avec l'enfance, et surtout des familles qui ont été fracassées, des enfants qui ont été enlevés, on a toute une évolution psychologique de la personne qui, au début, cherche à comprendre ce qui lui arrive. Parce que, en général, Et je pense que ça, c'est un petit peu ce que tout le monde pense dans le grand public, sans forcément être savoir ce qui se passe. C'est vrai qu'on parle de plus en plus de l'ASE maintenant, on est un petit peu déniaisé par rapport à ça. Mais on a tendance à penser que si l'ASE intervient, c'est parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. On pense que l'ASE intervient dans des cas
maltraitants. Ce qui n'est pas un principe juridique d'ailleurs, hein. Il faut le rappeler.
Oui, je sais bien, mais... Je sais bien, mais néanmoins, la plupart des gens pensent que il en faut beaucoup pour que l'ASE intervienne. Donc, immédiatement, on pense à des maltraitances graves. On pense, d'ailleurs, l'opinion publique est travaillée dans ce sens-là. On pense qu'il n'y a pas de placement abusif. Voilà. On pense que si l'ASE intervient, c'est qu'il y a des raisons.
Okay.
Alors,
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Oui, donc, par intérêt personnel, oui. Relationnel et autres, vous avez conseillé des gens qui étaient aux prises avec les services de l'État. Et vous, par votre positionnement philosophique général, en fait, l'État n'est pas forcément votre allié dans votre vie privée et vos biens personnels, si j'ai bien compris. Mais qu'est-ce qui vous fait dire, on a échangé un peu en off, donc je sais déjà plus ou moins, j'essaie juste de tendre la perche pour aller sur cette direction-là. Quelles sont les influences? Qu'est-ce qui fait que l'État est aussi intrusif aujourd'hui dans la gestion de la famille occidentale contemporaine?
Alors, ça, on va en parler... Mais je voulais quand même insister sur ce qu'on entend. Il y a eu, vous savez, l'ASE aujourd'hui est un petit peu au pilori. Hein. On pense qu'une commission parlementaire va résoudre la situation, tout simplement parce que ce que pensent les gens qui sont aux prises à l'ASE au début, ils pensent qu'il y a une erreur. Ils pensent qu'il y a un dysfonctionnement. Seulement, là où j'interviens, c'est pour montrer qu'en réalité, ce qu'on dénonce comme dysfonctionnement n'en est pas un, c'est le mode de fonctionnement même de l'ASE. Les mêmes affaires se retrouvent dans tous les départements, avec les mêmes modes opératoires, et pas seulement en France, puisque vous avez peut-être regardé le site du CEDI, vous avez vu qu'on est intervenu également en Suisse, et même des Français ont eu des problèmes en Norvège et en Suède. C'est-à-dire que le mode opératoire est le même partout, et donc c'est véritablement un phénomène sociologique. Il faut le comprendre, vous voyez. Donc la
démarche
qui
vient d'Amérique du Nord d'ailleurs,
qui
nous vient beaucoup d'Amérique du Nord d'ailleurs, hein, quand on creuse un petit peu.
Tout à fait. D'ailleurs, on en est également contacté par des parents québécois qui ont des problèmes avec la DPJ.
La loi 5.
C'est exactement la même chose au Québec.
La loi 5, sur Alain Rioux. Ouais.
Voilà. Tout à fait. Donc, la recherche qui doit être une recherche véritablement sociologique, je ne suis pas le seul à l'avoir menée. On a une interview du professeur Tarius qui a fait un très très bon travail sur la question et qui a mis en liaison l'ASE avec les mafias dans le 66. Donc, il a travaillé là-dessus dans le cadre d'un projet du CNRS. On l'a interviewé. Mais ce phénomène aujourd'hui est devenu un phénomène massif. Vous le dénoncez vous-même dans votre livre, d'ailleurs. Vous précisez qu'un enfant sur 100, aujourd'hui, est un enfant placé. Et nous ne sommes pas dans une... Au contraire, nous sommes dans une accentuation du phénomène. Donc, ce phénomène a des racines. Pourquoi est-ce que l'on place des enfants en France si on ne les place pas pour maltraitance? Vous voyez?
Et qui ne sont pas vraiment en danger et qui vont dans des endroits où ils sont moins bien que là où ils étaient auparavant. Oui, c'est une vraie question, ça, oui, effectivement.
Tout à fait. Aujourd'hui, on parle également de la prostitution des jeunes qui sont placés. Mmh. Donc là, effectivement, il n'y a pas de pire endroit qu'un endroit où on est prostitué. Alors, je ne dis pas non plus que tous les placements sont abusifs. Non. Ce que je dis, c'est que théoriquement, d'après ce que la loi prévoit, l'ASE doit rentrer dans un principe de subsidiarité. C'est-à-dire qu'on doit favoriser avant tout la famille. Donc, si il est possible que les parents soient maltraitants, ça arrive, lourdement maltraitants, une solution doit être trouvée auprès d'un tiers digne de confiance, c'est-à-dire dans le cadre de la famille. En réalité, c'est pas fait.
Ouais.
Donc, pourquoi c'est pas fait? Tout simplement parce que il n'y a pas que l'antifamilialisme, et l'antifamilialisme est lié à un intérêt catégoriel. Il faut savoir aujourd'hui qu'un enfant placé, c'est un enfant qui fait vivre une profession. Puisque tous les enfants ne sont pas placés, on peut être dans le cadre d'une mesure de l'ASE, on va faire intervenir des travailleurs sociaux qui vont faire des enquêtes, qui pourront éventuellement maintenir l'enfant à domicile, proposer des aides diverses ou variées. On a ensuite, parmi les enfants placés, la moitié qui sont en famille d'accueil et à peu près le tiers qui sont dans des foyers. Il faut savoir que le budget de l'ASE, vous le dites vous-même, hein, c'est pratiquement 10 milliards d'euros pour un nombre de placements d'à peu près... Allez, on est à peu près à 200 000 aujourd'hui.
Ouh là là.
Donc,
Fourchette basse.
Pour les chiffres. Mais pour les chiffres, on s'aperçoit que, global, avec le nombre d'enfants placés, et si on regarde effectivement ce que proposent les structures associatives, on peut dépasser allègrement les 7 000 euros par mois par enfant placé. Donc ça, c'est pas seulement un coût, c'est un revenu. On est dans une logique de circuit, tout ce qui est coût est revenu. Donc, nous, ce qu'on affirme très clairement, c'est qu'on ne détermine pas un besoin de placement en fonction de la maltraitance, mais un besoin de placement en fonction d'un taux de remplissage de structure et d'un nombre de personnel à maintenir en place, voire de postes à créer. Donc, on est bien dans cette logique-là. Aujourd'hui, vous mettez en place un foyer, le taux de remplissage doit être de plus de 90%, parce que sinon c'est un coût fixe et c'est pas rentable. Donc dès que les travailleurs sociaux demandent des moyens supplémentaires pour placer, qu'on leur permet éventuellement de créer des structures supplémentaires, ça veut dire systématiquement, maltraitance ou pas, qu'il y aura une augmentation des placements. Ça c'est très clair.
Alors, je vais me faire l'avocat du diable, hein, je fais exprès, la réponse qui vient dans ce cas-là, c'est il n'y a pas assez de professionnels, on engage des intérimaires, donc on ne peut pas dire qu'on est là pour fournir du travail à un personnel existant, car il y a un déficit de personnel et de moyens sur le terrain.
Eh oui, bah, écoutez, il y a un déficit de moyens, mais le problème, si vous voulez, c'est que si vous voulez des moyens supplémentaires, il faut forcément faire le buzz dans l'actualité. On va partir d'un cas dramatique. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ces enfants pour lesquels un juge des enfants a décidé d'un placement et qui ne sont pas placés, entre guillemets, faute de moyens. Bah, tout ça, c'est de l'esbrouf. Très honnêtement, le but qui est derrière, aussi quand on annonce que des enfants qui restent dans leur famille sont des enfants en danger, c'est de dire qu'il y a urgence. Et quand l'urgence, elle se concrétise pas tout de suite par la création de moyens supplémentaires, eh bien, il va y avoir des manifestations. On a affaire à un lobby qui est très revendicatif. Donc, alors, par contre, le problème, c'est qu'effectivement, c'est un métier qui connaît un taux d'absentéisme très élevé aussi. Donc, intérimaire, c'est qui? C'est des gens qui travaillent dans des structures de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. C'est des structures associatives. Mais en même temps, ces structures associatives participe à un clientélisme politique local. Ça avait été analysé par le prof Tarius. Donc on est clairement dans ce genre de situation. Je pourrais faire le parallèle avec l'éducation nationale aussi. Hein. Aujourd'hui, on manque de profs. On le dit partout. Hein. On a du mal à recruter, c'est le même problème. Et pourtant, l'éducation nationale, c'est un personnel d'un million de personnes. Voyez. Donc, je ne trouve pas d'excuses. Ou plutôt, je pense qu'on monte en épingle un certain nombre de problèmes qui sont liés justement à l'ASE pour avoir le discours suivant. Si vous nous donnez plus de moyens, il y aura moins de dysfonctionnement. Ce discours-là, il marche malheureusement auprès du grand public, mais ce que je peux dire, c'est qu'il est inopérant. Et s'il était opérant, on aurait des professionnels de la protection de l'enfance. Il y en a quelques-uns qui viennent nous voir, mais qui restent anonymes et qui nous disent: je connais des placements abusifs. Allez voir la parole des travailleurs sociaux, demandez-leur s'ils connaissent des placements abusifs, ils vous diront non.
Alors,
les seuls qui en témoignent le font en tant que donneurs d'alerte.
Alors,
lanceurs d'alerte, excusez-moi.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Les cas où alors un juge des enfants va dire « je ne place pas parce que je manque de place » sont des épiphénomènes, c'est extrêmement minoritaire parce qu'au jour d'aujourd'hui, Les juges des enfants, on en a énormément parlé ici, sont des personnes très jeunes en début de carrière et personne ne prendra la responsabilité de passer à côté de quelque chose. Donc à partir du moment où il y a eu une IP, que ça passe par procureur, ça passe par le JDE, généralement ils y vont. Par contre, au niveau des sociaux, c'est quand même très partagé et il y a énormément de véritables professionnels qui ont une véritable formation, qui se plaignent de ce qui se passe sur le terrain. Mais là, nous sommes dans le constat. Nous avons fini la première moitié d'émission, j'aimerais qu'on aille dans la seconde moitié d'émission, et la seconde moitié d'émission, j'aimerais qu'on arrive sur les raisons. Y a-t-il des influences, y a-t-il des courants idéologiques qui fait que nous arrivons à ce constat qu'aujourd'hui, on est quand même extrêmement nombreux à partager, et puis qui n'est plus une surprise. Hein. Tous ceux qui s'approchent un peu de ce domaine, tout ce qu'on vient de se dire, en fait, ils le savent déjà. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir d'où viennent les influences, qu'est-ce qui nous a amené à cette situation.
Oui. Alors effectivement, là on a parlé des intérêts catégoriels. Vous dites aussi que les juges, bah, ils ont peur de passer à côté d'un drame. Donc bah, ils sont pas sur le terrain. Le problème aussi, c'est que les travailleurs sociaux sont considérés comme des experts par les juges. Le rapport du travailleur social, il n'est pas remis en cause. Voyez. Alors que théoriquement, quand on bénéficie de la mesure qu'on préconise, je pense qu'il y a peut-être un conflit d'intérêts. Et ça, Maître Hamas, je crois que vous l'avez reçu, on a largement parlé. Donc ça, c'est un problème. Alors, en dehors du simple clientélisme, on parle d'enjeux idéologiques, on peut parler aussi d'enjeux de pouvoir, hein, puisque la profession de travailleur social, elle n'est pas reluisante, hein, globalement, mais ce sont des gens qui ont un pouvoir important. Donc, on rentre souvent, si on veut faire une analyse un petit peu psychologique derrière, on rentre dans un triangle de Cartman. On a des gens qui ont un pouvoir de transformation de la société, dans le sens où ils vont intervenir dans des familles. Et sachant que pour la famille, le travailleur social, c'est soit le sauveur, c'est ou le persécuteur, vous voyez. Et donc, en rentrant dans ce rôle-là, on va leur donner un pouvoir jusqu'à faire effectivement des expertises qui vont être, je dis bien expertise, hein, parce qu'un rapport social, c'est une expertise, c'est considéré comme tel. Donc, on leur donne un pouvoir dont ils vont profiter. Ça, c'est un problème. Un pouvoir sans borne, c'est un pouvoir dont on abuse forcément. Donc, il y a déjà ce problème-là dont on ne parle pas assez. C'est le pouvoir du travailleur social, c'est un pouvoir dans lequel j'ai assisté des familles, celles qui peuvent s'en sortir, c'est celles qui se font tout petits. Hein. Vous voyez, le problème qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas, quand on est aux prises avec un travailleur social, remettre en cause son travail. Parce que si vous le faites, et s'il intervient à titre administratif, il va tout de suite judiciariser l'affaire, et vous allez avoir un rapport à charge, très à charge, qui va faire que les parents, ça peut faire penser, je vais vous dire, je vais vous faire un parallèle. C'est un petit peu quand vous avez un problème avec les services fiscaux. Il faut reconnaître tout de suite, même si vous n'avez rien fait, vous êtes présumé coupable. Et la présomption de culpabilité emporte culpabilité. Là. Hein? Donc on est dans ce genre de situation. C'est un conseil que je peux donner, malheureusement. Il faut essayer de leur donner un petit peu de grain à moudre, de reconnaître qu'on n'a pas forcément été parfait et qu'on est prêt à entendre des choses. Alors, sinon, effectivement, on va dire que les parents sont dans le déni.
Certaines voix disent que la formation des travailleurs sociaux peut être idéologisée et que les travailleurs sociaux font partie aujourd'hui d'une espèce de force de coercition sur la population. Ce sont des choses qu'on entend parfois. Moi, je connais des éducateurs qui sont extraordinaires, donc j'ai beaucoup de mal à les critiquer de manière individuelle. Mais au niveau global, ce sont quand même des retours qu'on a parfois.
Tout simplement, on peut discuter. Moi, ça m'arrive de discuter effectivement avec des éducateurs et certains viennent nous voir en disant « Mais vous dites pas que je vous l'ai dit. » Mais posez-leur la question. Demandez-leur si, à leur avis,
l'intrusion des travailleurs sociaux et de l'État dans la famille, outil de coercition ou pas ?
Alors, forcément. Et si on regarde de près dans chaque famille, on va pouvoir trouver des raisons de placer les enfants. Alors, il y a une loi qui s'appelle la loi sur les violences éducatives ordinaires, qui part d'un très bon sentiment, qui est de considérer qu'effectivement, l'enfant a le droit de ne pas être frappé, et on n'éduque pas un enfant en le frappant, on est bien d'accord. Seulement, le problème, c'est que la loi sur les violences éducatives ordinaires s'est éloignée de son intention première et a considéré qu'une violence éducative ordinaire, c'est ce qui se pratique dans 80% des foyers français. Vous voyez, 80% des foyers français mettent en place des violences éducatives ordinaires. Juste avant l'émission, j'ai regardé un rapport de l'INSEE qui est sorti l'année dernière, qui montre qu'entre l'élaboration de cette loi, elle date de 2019, et 78, maintenant il y a 80% des parents qui s'adonnent à des violences éducatives ordinaires. Ça veut dire qu'on est tous concernés. Ça veut dire a priori que 80% des familles pourraient se voir aux prises avec des travailleurs sociaux, à devoir se justifier par rapport au fait, par exemple, de priver son enfant de téléphone portable, de l'obliger à faire ses devoirs ou d'élever la voix, puisqu'une violence éducative ordinaire, c'est également ça. Donc derrière, il y a forcément une intention. Hein, et cette intention, je regardais, elle avait été précisée par des personnalités comme Isabelle Santiago. Alors là, je vous lis hein, ce qu'elle avait dit, puisqu'elle a participé à une autre loi qui est la loi de 2016, la loi Taquet, sur la protection de l'enfance. Elle a dit « C'est nous qui avions retiré la loi de 2007, la loi précédente, qui plaçait l'enfant au cœur de la famille. Parce qu'il doit y avoir des problématiques majeures avec le concept de la famille sacrée. » Donc là, on est dans l'antifamilialisme. La famille n'est plus sacrée. Hein, alors que dans le principe de subsidiarité, tout doit se régler d'abord dans la famille. On doit aussi protéger l'enfant de la famille, de famille au pluriel, qui parfois peuvent être quand même assez complexes. Qu'est-ce que ça veut dire, des familles assez complexes ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le problème, c'est pas la famille maltraitante, ce qui devrait être un problème, bien évidemment, mais c'est la famille complexe. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Est-ce que l'État peut s'immiscer au cœur des familles et dire, et remettre des permis d'avoir des enfants ou de les éduquer?
Mais il le fait. Pareil, il le fait. Et puis, d'ailleurs, l'étape d'après, ça va être les grands-parents, puisque le projet de loi, il y a une étude ils sont en train de travailler dessus, et pour qu'un grand-parent puisse avoir les enfants plus de 3 heures, il faut l'accord des 2 titulaires de l'autorité parentale en cas de séparation. Donc, on arrive aussi dans une judiciarisation de l'accès à l'enfant par les grands-parents, par les tiers. On rentre encore dans l'avocat. Madame Santiago, au passage, c'est quand même elle qui a mis en place ce très grand principe de droit qui fait un désastre permanent, qui est que en cas d'accusation, vous êtes coupable le temps qu'on prouve votre innocence. C'est-à-dire qu'en cas d'accusation de violence, vous perdez votre autorité et vos droits parentaux le temps de l'enquête qui dure plusieurs années. C'est Mme Santiago qui a instauré ça. Hein. C'est elle qui a fait ça quand même. Il faut le savoir.
Oui. En cas de violence élargie, hein, on parle pas seulement, on peut parler de violence éducative ordinaire.
Ah, une plainte d'une infirmière à l'hôpital. Un enfant qui dit sur un bout de table « Ah, papa ou maman, elle a fait ça et tout », on va venir voir, et le temps qu'on vienne voir, il y a une suspension des droits parentaux et des liens parentaux, c'est-à-dire qu'en fait, il y a punition par défaut avant que l'innocence soit prouvée. C'est quand même une remise en cause fondamentale de le principe juridique. Si on parle d'antifamille,
Oui, parce qu'il y a une présomption, là.
Voilà. Hein. En cas de présomption, il y a punition. Voilà.
Voilà, c'est le principe de prudence également, le principe de précaution, qui vaut qu'on considère effectivement qu'il faille mettre en place un dispositif. Ce principe de précaution, on remarquera qu'il n'existe pas dans les foyers.
Parce que l'enfant n'a plus de droits une fois qu'il est placé. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce sont les origines idéologiques et éventuellement les lobbies d'influence qu'il y a derrière.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Est-ce que vous avez creusé un petit peu quelles sont les origines de ces mouvements qui sont nouveaux depuis...
Je vais vous en donner quelques-uns, puisque j'avais aussi été interviewé par Carl Zero sur cette affaire. Et vous avez précisé que ça venait d'Amérique du Nord. Oui, vous avez raison, hein, ça vient bien d'Amérique du Nord. Et ça vient d'un clan qu'on connaît, le clan Clinton, hein, je pense que tout le monde connaît un petit peu. Alors, là,
la gauche américaine, les démocrates américains.
La gauche américaine, d'accord. Oui, tout à fait. Hein. Alors là, j'ai retrouvé effectivement des déclarations de Mary Jo Bain, hein, qui a dirigé les services sociaux de l'État de New York et qui est devenue adjointe à la secrétaire d'État aux familles sous l'ère Clinton, donc qui a travaillé sur la loi Clinton. Alors, sa déclaration, elle est intéressante. Je vais vous la lire. Elle date de 77, mais elle va la mettre en place 20 ans après. « Nous ne savons pas vraiment comment élever les enfants. Si nous voulons donner l'égalité des chances aux enfants, parce qu'il y a aussi cette thématique hein, bourdieusienne sur l'égalité des chances, sur la reproduction sociale. Alors, le fait que les enfants soient élevés dans leur famille implique des inégalités. Hein. Eh oui, c'est un dilemme. Pour que l'éducation soit égalitaire, nous devons les relier et les élever en communauté. » Donc voilà, ça s'écrit noir sur blanc. Ça vous rappelle peut-être un certain ministre en France qui disait qu'il fallait couper l'enfant de ses déterminismes familiaux. Hein. Voilà, tout simplement. Eh bien, figurez-vous que ce principe, il a été mis en place en 97, puisque Mary Jo Bayne a inspiré la loi pour l'adoption et la sécurisation des familles, qui a permis d'en finir avec ce qu'en France on appelle la sacro-sainte famille, pour envisager également l'intervention de l'État dans la création de familles, c'est-à-dire des lois qui vont permettre d'aller vers l'adoption. Le lobby de l'adoption en France intervient également. Aujourd'hui, on a besoin d'enfants à placer, hein. Et aujourd'hui, effectivement, avec les nouvelles lois, un enfant qui a été coupé de ses parents, parce que vous savez, les parents qui sont allés en visite médiatisée vivent un calvaire, hein. Donc c'est difficile. Donc un enfant qui a été coupé de ses parents, c'est un enfant qui va être divorcé de ses parents, qui va faire l'objet d'un constat de délaissement par les mêmes travailleurs de nul placement et qui pourrait être mis à l'adoption. Ça, il faut le savoir. Hein.
C'est à l'origine de la fameuse loi. C'est à l'origine de la fameuse loi qui vient du Québec, qui remettait en cause la primauté biologique et qui, de manière sous-jacente, essayait de compenser l'effondrement du marché de l'adoption internationale durant la période du Covid. Voilà. C'était quand même... Mais quels sont, en fait, entre la gauche américaine et Clinton et New York et notre Assemblée nationale et nos sociaux, quel est le lien? Comment ça vient de là-bas à ici?
Je pense qu'on a les... Alors vous allez me dire que j'évite de trop en parler, on va dire que je suis complotiste.
Disons qu'il faut que je tire beaucoup sur la ficelle ce soir, je trouve, là. Mais dites-nous.
Oui, je suis prudent. Mais si vous voulez, on pourra refaire une autre émission.
Il nous reste une minute, allez-y.
Il nous reste une minute. Bon, oui. Alors, si vous voulez, on pourrait parler d'un mouvement idéologique et ça... ça nécessite un développement important, un développement important sur ces mouvances post-68ardes qui aujourd'hui se retrouvent dans la contestation du familialisme en tant que modèle bourgeois complètement dépassé. Ça, on peut en parler. Il y a des lobbies qui sont à l'œuvre, des lobbies qui...
Lesquels ?
Celles, mais pas seulement.
Lesquels ?
Et qui financent effectivement tous ceux qui travaillent idéologiquement sur le désarmement familial.
Alors, c'était ça le but de l'émission pour lequel je vous avais contacté, ouais. Et puis qu'on arrive à 28 minutes à ça. Alors, quels sont ces lobbies, qui financent et qu'est-ce qu'ils font?
Alors j'ai besoin de faire une enquête un peu plus poussée sur la question.
D'accord.
Je peux vous donner des noms, je n'ai pas tous les éléments de preuve.
Bon.
Donc
effectivement,
je vais pas le faire.
Oui.
Mais si vous voulez, on peut parler des mouvements antifamilialistes. Alors, ce qu'on voit, on a eu dans les années 70. Je ne sais pas si on a un petit peu de temps pour en parler encore.
Non, il nous reste une dizaine de secondes. Xavier Collet, je vous remercie beaucoup. On trouve donc le CEDIF, CEDIF, on le trouve à comitécedif.wordpress.com. Et si on tape Xavier Collet et CEDIF, on va arriver sur le site. Il y a plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'articles. Il y a du contenu que j'aime bien dans votre contenu, c'est qu'il est généralement justifié et puis que vous aimez pas vous avancer pour rien. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir répondu. Puis à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.
Voilà. Merci.
Radio Libre en Périgord.
Merci, au revoir.
Justice, enfance.